France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's in the house.
Halia Radio Rosana Piperis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Est-ce que l'Europe est en train de perdre la bataille de la compétitivité? Est-ce que son industrie risque de tout bonnement disparaître face au rouleau compresseur chinois? C'est l'expression de Clément Beaune qui est notre invité au commissaire au plan et qui veut faire grimper les droits de douane à 30%. C'est aussi la réflexion de tous les Européens qui se réunissent demain pour parler compétitivité, préférence européenne également. Au Mali, les Français et les Américains s'inquiètent, mais pourquoi? Frédéric Seyss nous le dira en remettant le monde à l'endroit. Le reportage est en Ukraine ce soir à Odessa où chaque nuit des soldats ukrainiens veillent pour tenter de contrer les attaques de drones russes qui arrivent par centaines. Un reportage à découvrir ensemble autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé un batteur américain qui entend battre le record du monde de vitesse de batterie. Et juste avant 19h, Ilana Mourioussef fouille sa bibliothèque pour nous aider à comprendre l'actualité. Ce soir, il sera question d'une princesse et de Britney Spears. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
The urgency could not be greater. We're fighting for our place in the new global economy.
Vous avez reconnu évidemment Ursula von der Leyen ce matin à Anvers devant les patrons européens. Elle dit ceci, l'urgence n'a jamais été aussi grande. Nous nous battons pour notre place dans la nouvelle économie mondialisée. Bonsoir Clément Beaune.
Bonsoir.
Vous êtes haut-commissaire à la stratégie et au plan. Vous avez sorti lundi un rapport, c'était avant-hier, qui s'appelle l'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois. Je le disais, nous y reviendrons. Vous proposez donc de taxer les produits chinois à hauteur de 30% pour sauver une industrie européenne dont vous dites qu'elle est en danger de mort. Un rapport choc qui arrive donc alors que demain, les dirigeants européens se réunissent en Belgique pour renforcer justement cette compétitivité européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'est endormi sur nos loyers? Est-ce qu'on n'a rien vu venir? Ou est-ce qu'on n'a pas voulu voir, surtout, en fait?
Je crois qu'on la connaît, cette menace commerciale chinoise. Le rapport, il vise surtout à montrer un diagnostic qui est sans doute inédit, parce qu'on regarde secteur par secteur et pays par pays. On a pris l'habitude, en quelque sorte, de se focaliser, et c'est déjà beaucoup, sur quelques filières. Je pense à l'automobile, c'est 13 millions d'emplois, directs et indirects, dans toute l'Europe, donc c'est majeur, qui est en grande difficulté, on le voit bien, parce que les Chinois ont pris beaucoup plus tôt que nous le virage du véhicule électrique, de l'innovation. Et aujourd'hui, dans ce secteur, par exemple, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres, ils ont en général une meilleure qualité ou une aussi bonne qualité à des coûts 30 ou 40% inférieurs.
Mais quand donc, vous on avez l'a vu venir écart, et on a été quoi? On a été timoré parce qu'on a bien vu, les mesures coercitives, on les prend sur les t-shirts, mais pas
bien
sur
sûr,
les voitures électriques.
Je vais vous dire, la France a porté cet agenda depuis de nombreuses années. Et heureusement, d'ailleurs, on a fait un certain nombre de progrès. On a, par exemple, été à l'initiative, en Europe, d'une enquête sur, justement, les subventions publiques chinoises aux véhicules électriques, qui créent une compétition, une concurrence déloyale, avec des taxes, des tarifs anti-dumping, comme on dit, qui ont été appliqués sur ce secteur. Tout ce qui a été fait dans l'arsenal de défense commerciale européenne ces dernières années, c'est beaucoup la France qui l'a porté, parfois un peu seule. Je pense à ce dont on a parlé aussi à l'égard des menaces américaines il y a quelques semaines, ce fameux instrument dit anti-coercition, c'est-à-dire réagir par des mesures de fermeture ou de protection s'il y a une menace de l'extérieur, que ce soit la Chine, les États-Unis ou d'autres, on a cet arsenal. Mais on a peut-être pensé, d'abord parce qu'on regarde beaucoup du côté de Washington aujourd'hui et qu'on oublie un peu Pékin, que cette menace, en quelque sorte, elle était stabilisée. Or, elle est forte, elle s'amplifie en termes d'intensité de concurrence, et elle s'étend à tous les secteurs, je le disais, et à tous les pays. Je prends un exemple, l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas protégée contre cette concurrence. En Allemagne, aujourd'hui, ce sont depuis 2 ans 10 000 emplois industriels qui sont perdus, qui sont fermés chaque mois.
Et en même temps, beaucoup d'exportations vers la Chine. On va y revenir. Il y a eu des appels du pied qui ont été de vrais warnings. Clément Beaune, il y a eu le rapport Draghi. C'était il n'y a pas si longtemps, qui préconisait même un apport de 800 milliards. Aujourd'hui, on propose même encore plus d'investissements. Au fond, ce que ça semble dire, c'est qu'on n'est pas crédible face à la Chine, en fait.
Si, d'abord, il ne faut pas, je pense, minimiser nos atouts. Je pense que ce rapport, il appelle à la lucidité. Il veut aussi dire à l'Europe, aux Européens, nous sommes un grand marché, nous sommes le premier marché ouvert du monde. Nous sommes 27 pays, 450 millions de consommateurs, aucune puissance commerciale, ni les États-Unis, ni la Chine, ne peut se priver du marché européen. Donc, on a une forte réaction. Ce n'est pas comme si c'était foutu.
Mais ce que vous soulignez aussi, c'est que les produits sont qualitatifs.
Oui, ça c'est vrai.
Et peut-être que c'est ça l'erreur. Est-ce que c'est ça l'erreur qu'on a commise? C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que nous, on faisait du qualitatif et que oui, la Chine faisait peut-être des produits qui étaient moins chers, mais le qualitatif, c'était nous. Aujourd'hui, c'est plus vrai, ça.
C'est vrai dans beaucoup de secteurs et de plus en plus. Nos industriels le savent et l'ont dit. Mais je pense que notre état d'esprit collectif, c'était de considérer que la Chine construisait pas cher, produisait pas cher, et ça reste vrai, parce qu'il y a des avantages compétitifs sur le coût de l'énergie, sur le coût du foncier, évidemment sur les coûts sociaux, moins élevés que chez nous, mais il y a aussi de la qualité. C'est fini le moment où la Chine était l'atelier du monde et produisait des choses low cost. Après, aujourd'hui, le véhicule électrique, mais aussi la machine-outil, la pharmacie, c'est de grande qualité en Chine. Il faut ouvrir les yeux sur cette réalité.
Après, Clément Beaune, c'est pas comme si on n'avait pas déjà essayé, et même si on n'avait pas été réveillé depuis un certain temps. Les usines de batteries, on commence à en avoir, elles sont dans le nord, autour de Dunkerque, mais les quantités sont infinitésimales par rapport aux besoins. Les panneaux solaires, on a renoncé. Au fond, parce qu'ils le font mieux, ils le font moins cher, et ils le font plus vite, finalement.
Alors, ce sont deux très bons exemples qui, je pense, sont un peu opposés ou différents. Les panneaux solaires, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. On prend comme exemple dans le rapport, on était leaders mondiaux avec des entreprises européennes et parfois américaines dans les années jusqu'au début des années 2010. Il y a une concurrence organisée, planifiée, parce qu'il y a de la planification en Chine, organisée par Pékin, et en quelques années, entre en gros 2010 et 2013, on s'est effondré. Aujourd'hui, parce qu'on ne s'est pas protégé.
Parce qu'on ne s'est pas protégé ou parce qu'on était moins bon?
Parce que, d'abord, on ne s'est pas protégé. Parce que l'innovation, c'est évidemment important. Je veux dire, c'est l'essentiel. Moi, je ne recommande pas qu'on vive derrière un mur tarifaire et qu'on oublie d'investir et d'innover. Il faut d'abord investir et innover. Mais quand vous avez un écart de 30 à 40%, à court terme, vous risquez de disparaître du marché. C'est ce qui s'est passé dans le photovoltaïque, alors qu'à l'époque, on avait encore une qualité qui était importante sur cette production. Je prends les batteries parce que ça, c'est intéressant. Je pense que c'est une réaction bien meilleure. On s'est dit, dans l'automobile, bien sûr, c'est difficile. C'est pour ça que je pense qu'il faut protéger la filière, y compris par des mesures tarifaires, douanières, de protection. Mais évidemment, il faut une politique d'investissement. Ce que fait la France, mais ce que fait l'Allemagne aussi, ce qui a beaucoup poussé le président, il était encore à Dunkerque hier, c'est d'avoir une production de batteries. Bien sûr, ça démarre petit, si je puis dire, mais c'est en train de monter en puissance. En quelques mois, quelques années, on a ouvert des gigafactories en Europe, et on est en train, et nos constructeurs ont aussi fait des investissements très importants sur des sites industriels européens pour produire de l'électrique. Et puis, il faut de l'accompagnement, parfois de la subvention ou de l'aide. Je pense le leasing social, par exemple, qui est un bon exemple. On aide des gens qui sont des classes moyennes qui travaillent, des ménages modestes en France, à acheter de l'électrique qui reste aujourd'hui inabordable pour beaucoup de Français.
Et qui coûte, et on l'a bien vu en France.
Donc il faut tout ça à la fois.
Voilà, et qui coûte, on l'a bien vu en France. Il a fallu réduire ce leasing social parce que ce n'était pas open bar. Les Allemands, de la même manière, l'avaient mis en place et puis ont dû y revenir avant d'y retourner derrière. Donc on voit bien aussi cette difficulté-là dans nos pays à nous, qui sont dans des états budgétaires, et on le voit bien ici, qui sont difficiles.
Mais ça, si je prends ma casquette de planificateur, si je peux dire, il faut un peu de stabilité. Le leasing social, on pourrait prendre d'autres exemples, ce sont des bons dispositifs. C'est vrai qu'ils peuvent coûter de l'argent. Mais typiquement, ça, c'est une politique cohérente. On reproduit en France, avec les usines de batteries. On se protège d'une concurrence excessive de la Chine avec des mesures tarifaires et on accompagne les ménages, les Français, à changer d'usage avec ce soutien social. Si on ne fait pas les trois à la fois, ça c'est un très bon exemple, on n'y arrive pas. Si on fait les trois à la fois, c'est un investissement. Je crois que ce n'est pas une dépense, le leasing social, c'est un investissement qui est important et pour donner un signal clair, il ne faut effectivement pas changer le dispositif tous les trois ou six mois.
Clément Beaune, vous préconisez donc des droits de douane à 30% qui est à peu près le prix.
On préconise une réaction, c'est le point clé, transversale, parce que si on fait du secteur par secteur, ça prend du temps et c'est sans doute insuffisant. Après, on peut débattre.
Et qui est à peu près le différentiel du coût, en fait. Exactement. C'est pour ça que ça a été fixé autour de ça. Il y a d'autres choses qui sont sur la table. Il y a ce fameux emprunt de 1 000 milliards qui a été proposé par Emmanuel Macron. Il y a aussi ce qui revient sur la table, c'est la fameuse préférence européenne. Oui. C'est quoi la différence entre préférence européenne et protectionnisme ?
C'est complémentaire. La préférence européenne, c'est l'idée d'avoir dans certains secteurs, ça peut être par exemple des secteurs de souveraineté, la défense, l'espace, un choix dans la commande publique, de plus en plus dans l'achat privé, pour des productions qui sont faites en Europe. Ou d'avoir, par exemple, il y a une réglementation européenne en ce sens sur les microprocesseurs, sur les puces, d'avoir des composants made in Europe, fabriqués en Europe, un seuil minimum dans les productions qui sont vendues sur notre territoire.
Mais c'est ça qui est difficile à comprendre. Est-ce qu'on parle de composants européens ? Est-ce qu'on parle de produits fabriqués en Europe, mais qui ne sont pas forcément produits fabriqués par des entreprises qui sont européennes ? On parle de quoi exactement ?
Alors ça peut être les deux. Ce qui est fait aujourd'hui sur la préférence européenne, vous avez fait entendre Mme von der Leyen, présidente de la Commission, il y a quand même une nouvelle qui est positive et qui est une vraie nouveauté. C'est que Mme von der Leyen, qui ne voulait pas entendre parler, ou sa Commission, de préférence européenne, sous l'impulsion de la France, du commissaire Séjourné, reprend cet agenda. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle et une nouveauté. Deux, ensuite, c'est du secteur par secteur. La définition du made in Europe ou de ce que sont les chaînes de valeur des composantes européennes ne sera pas forcément la même dans le secteur de l'automobile, de la défense, des puces, etc. ce que je dis et ce qu'on lit dans ce rapport, c'est qu'il faut se rendre compte, après on peut débattre des outils bien sûr, mais il faut se rendre compte que si on fait du secteur par secteur, ce sera positif, c'est nécessaire, mais c'est sans doute trop long et pas assez puissant. Si on n'a pas une réponse transversale, parce que tous les secteurs sont concernés par la menace, l'automobile, la chimie, le plastique, les machines-outils, la pharmacie, et j'ai pris ces exemples-là, ils sont très importants, ils sont au cœur de notre production. Si on ne fait pas cette réponse massive et transversale, on aura sans doute une grande difficulté, en innovant.
Et vous avez entendu, certains pays disent chiffres, et puis il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, et probablement aussi parce que les voitures allemandes, vous avez dit, qui ont perdu de la puissance, mais enfin qui quand même exportent beaucoup du côté de la Chine. Il y a la Suède aussi, autant de pays qui disent attention, si c'est trop rigide, cette histoire-là, ça deviendra un étau et on va la perdre, cette bataille-là. On perdra même la bataille de la croissance au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces pays-là? Et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on y arrive vraiment à 27? Ou est-ce qu'on se dit, et ça fait très longtemps que c'est dans l'air aussi, que parfois, et pour des solutions de ce genre-là, on réduit le groupe?
D'abord, vous avez raison, il n'y aura pas une seule réponse.
C'est moi qu'on
peut
se dire.
Même tarifaire.
Il y en aura peut-être même 27.
Non, mais même si on était tous d'accord, je vais venir sur le désaccord, même si on était tous d'accord, il n'y aura pas une seule réponse. Je ne préconise pas du tout qu'on ait que la protection. Ouais. Il faut l'innovation, il faut l'investissement. Ensuite, dans les outils de protection, il peut y avoir des différences. Préférences européennes, mesures tarifaires. Encore une fois, ce qu'on dit, c'est que ne croyons pas que c'est seulement 2, 3, 4 secteurs qui sont concernés. C'est toute l'industrie qui est menacée à courte échéance. Ensuite, est-ce qu'il faut des mesures communes? C'est mieux. Parce que le marché, il est unique, le marché des 27, les 450 millions de consommateurs, et c'est notre force. Quand vous agissez de manière éparpillée, vous êtes plus fragile face à des représailles
c'est
potentielles.
C'est mieux, mais j'ai l'impression d'entendre dans votre bouche, c'est mieux, mais si on ne peut pas le faire en 27, soyons moins nombreux.
Il y a des sujets, pas sur tous. On ne va pas diviser le marché unique en petits bouts et diviser la politique commerciale européenne ou douanière en petits bouts, ça ne marcherait pas. On ne va pas avoir, sinon il faudrait rétablir des frontières partout. Je pense que ça serait une perte économique et ce n'est pas ce qu'on veut ici. En revanche, il y a des sujets sur lesquels les économistes comme Philippe Aguillon l'évoquent. Par exemple, si on veut faire des investissements communs dans les batteries, on l'a fait en bilatéral avec l'Allemagne ou avec quelques pays. Si on veut investir dans certains projets industriels de défense, on peut le faire aussi à quelques-uns. Et si demain, l'endettement commun que le président de la République a reproposé hier, qu'on a fait au moment de la relance Covid, mais qu'on pourrait faire de manière plus pérenne dans des filières comme l'IA ou comme la défense, si on ne peut pas le faire à 27, dans ce domaine-là, il n'est pas impossible, il serait même peut-être pertinent d'avancer vite à quelques-uns.
Il nous reste peu le temps, deux choses quand même. Ce que dit aussi Ursula von der Leyen, et c'est dans la même veine, c'est qu'elle parle de grand nettoyage réglementaire.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire un grand nettoyage réglementaire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous cessions d'être l'Europe qui régule?
Alors, avec prudence, moi je dirais là-dessus, il faut un volet investissement, il faut un volet protection, puis il faut une troisième jambe qui est effectivement cet agenda que pousse beaucoup la présidente de la Commission, de simplification, certains disent de dérégulation. Je dis attention, bien sûr il y a des normes excessives en Europe par rapport à d'autres puissances internationales, mais notre idéal, je crois, d'Européens, n'est pas de devenir, sur le plan social ou environnemental, la Chine ou même les États-Unis. On a des protections qui sont importantes. Le fameux Green Deal, vous savez, toutes ces règles environnementales, peut-être il faut le simplifier sur quelques points, mais ne croyons pas d'une part que c'est là que se situe seulement notre différentiel de compétitivité, ça n'est pas vrai. Et ne croyons pas que le problème central, c'est les normes, c'est le manque d'investissement, le problème principal, et le manque de protection. Donc, pourquoi pas une jambe de simplification, mais complétons-la par un volet de protection et un volet d'investissement. C'est ça le message central. Si on ne fait que de la simplification, ce sera long et insuffisant.
J'entends investissement, j'entends donc 30% à discuter de droits de douane, j'entends une forme de protectionnisme, vous devez expliquer que c'était un peu plus complexe que ça, mais néanmoins, j'entends il faut produire français, pardon, mais j'entends Donald Trump. Donc est-ce que ça veut dire que derrière les grands cris et les grands remous, c'est lui qui a raison?
Alors j'espère que ce que vous avez entendu n'est pas tout à fait ce que dit Donald Trump, parce que nous respectons le droit international.
Non mais, sur la politique économique, d'abord. Avec des droits de douane, produisez en Europe et une forme de protectionnisme, ça s'appelle la politique américaine.
Non, je crois pas, parce que d'abord, Donald Trump, c'est la politique de non-coopération absolue, de non-respect des règles de droit international absolu. Là où il faut se réveiller, mais c'est pas que Donald Trump, c'est avant Donald Trump. Monsieur Biden a protégé le marché américain en investissement, exactement, en investissant des centaines de milliards d'euros dans les technologies d'avenir. En faisant aussi, effectivement, et ça c'est de longue date, le Buy American Act, qui est en gros l'idée que sur les marchés publics notamment, on achète d'abord américain. Donc tout ça, c'est pas Donald Trump. Justement, si on veut pas avoir des Donald Trump partout en Europe,
mais ce que ça veut dire, c'est que sur le fond, il avait peut-être raison, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est ça le sens
de la
question.
Non, je ne crois pas. Mais attendez, il y a une réalité politique, c'est que Donald Trump, il a été élu notamment par des gens qui ont souffert de cette concurrence commerciale et de cette désindustrialisation. Ça, c'est une réalité. De même que le Brexit était un cri d'alarme. Mais il faut pas répondre, je crois, par ces politiques de fermeture. En revanche, les politiques de naïveté, c'est pas ce que doit faire l'Europe. Et oui, la France, depuis longtemps, hein, parce qu'on a fait des avancées proposées par Emmanuel Macron depuis 2017 sur la défense commerciale, doit enfourcher, si je peux dire, ce cheval aussi.
Clément Beaune, vous êtes le haut-commissaire à la stratégie et au plan, et merci beaucoup
merci à vous.
De votre passage dans Un jour dans le monde. La suite ce soir, c'est vous, Frédéric Seuil, si vous le remettez le monde à l'endroit.
Et je vous emmène au Mali qui peine à contenir la poussée djihadiste, et l'alliance avec la Russie n'y change rien.
Et juste après ça. Good things will come after the pressure. C'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Frédéric, au Mali, la junte au pouvoir alliée à la Russie affronte une lourde crise sécuritaire.
Des camions-citernes escortés par l'armée. Au Mali, la scène n'est pas rare depuis la fin de l'été dernier. Depuis que les djihadistes tentent de couper l'approvisionnement en essence, ils veulent en fait étrangler la capitale, Bamako, 3 millions d'habitants et des files d'attente aux stations essence, parfois jour et nuit. Le Mali, immense pays enclavé au Sahel, dépend de ses voisins pour son carburant, Sénégal et Côte d'Ivoire, d'où proviennent 90% des livraisons. Ce sont des convois par camion-citerne sur plus de 1000 km, des cibles idéales pour les groupes djihadistes qui veulent affaiblir le pouvoir central. Les chauffeurs routiers maliens viennent d'ailleurs de se mettre en grève après l'assassinat d'au moins 15 de leurs collègues lors de l'attaque d'un convoi. C'était il y a 2 semaines dans l'ouest du Mali, près de la frontière avec le Sénégal. Les corps de ces routiers n'ont même pas encore été récupérés.
Et la junte qui est au pouvoir au Mali se trouve isolée face à ces attaques.
Oui, elle revendique une forme d'indépendance et même de souverainisme. Elle a bâti sa popularité sur le sentiment anti-français. Après le coup d'État il y a 5 ans, elle a poussé l'armée française à partir, tout comme la force des Nations Unies, la MINUSMA. À la place, le nouveau régime s'est rapproché de la Russie et de ses paramilitaires de la force Wagner, Wagner qui s'appelle désormais Africa Corps. Le Mali s'est aussi allié au Niger et au Burkina Faso, des pays là aussi où des juntes ont pris le pouvoir après des coups d'État sur fond d'hostilité à la France. Mais ces alliances n'ont pas permis de rétablir l'ordre au Mali, c'est un euphémisme. L'armée malienne échoue à lutter contre les embuscades. Les zones d'attaque des groupes djihadistes semblent s'étendre toujours plus. Partie du nord, elle frappe désormais l'ouest et le sud du pays.
Ce qui inquiète toute la région, évidemment.
Évidemment, et la région qui craint une expansion de la menace djihadiste, l'afflux de réfugiés. La Mauritanie voisine accueille déjà 300 000 Maliens déplacés, selon le HCR, l'organe des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, face aux attaques et aux attentats, les autorités maliennes assurent qu'elles se réorganisent, qu'elles renforcent leurs troupes. Elles accusent aussi leurs deux boucs émissaires préférés, la France et l'Algérie. L'Algérie périt exportateurs de terroristes, a même lancé le Premier ministre malien à la tribune de l'ONU à New York l'an dernier. Raidissement aussi contre la presse. Le directeur d'un journal malien, l'Alternance, a été arrêté la semaine dernière à cause d'un article qui avait déplu. Alors d'un côté, il y a cette posture radicale, mais de l'autre, la junte est obligée d'assouplir ses positions. Elle a repris un début de dialogue avec les organisations africaines, avec les États-Unis également. L'administration Trump a envoyé un émissaire à Bamako la semaine dernière. À l'issue de la rencontre, le chef de la diplomatie malienne a évoqué une relance des relations avec Washington, en particulier face au terrorisme, comme un aveu de l'impasse des alliances actuelles pour le Mali. L'histoire ne dit pas quelle a été la réaction de Moscou.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Ukraine, ce soir où les drones, vous le savez, sont devenus le nerf de la guerre après bientôt 4 ans d'invasion russe à grande échelle. Chaque nuit, des dizaines, voire des centaines de drones sont envoyés par Moscou sur les grandes villes ukrainiennes et leurs infrastructures énergétiques. Comment les contrer et défendre les civils? Ici, nous sommes à Odessa, près d'Odessa. Les Ukrainiens ont notamment mis en place des unités de défense aérienne mobile, des gens qui guettent le ciel toute la nuit pour tirer sur les drones. Et le reste, c'est Théo Renaudon qui raconte.
Nous sommes au bord de la mer Noire. Par ce vent glacial, 8 soldats, gilets pare-balles et casques sur la tête, montent la garde. Cela va durer 12 heures. Positionnés à leur côté, 2 mitrailleuses lourdes sur tourelles, équipées de caméras thermiques.
On utilise des mitrailleuses Browning, calibre 12 et 7. Nos balles ont une portée de 7 km.
Darwin, de son nom militaire, nous décrit les pires ennemis de son unité, les Shahed, ces drones iraniens gris, de la taille d'une petite voiture surchargée d'explosifs. Et les Gerbera, couleur blanche, plus moderne et petit, mais moins facilement détectable, tous viennent de l'autre côté de la mer, de Crimée occupée, à 60 km d'ici.
C'est difficile de détruire les drones, de les abattre ?
Ça dépend de plein de trucs. Beaucoup de la météo, de la vitesse de l'engin et de son altitude.
Est-ce que c'est de plus en plus difficile ?
Ça devient de plus en plus difficile parce que les nouveaux drones sont plus vifs. Ils deviennent de plus en plus rapides. Mais ça reste faisable.
On travaille comme un seul corps. Un de nos gars nous donne les coordonnées de tir et nous on tire. On tire et on détruit. On travaille tous ensemble.
Ce gars, c'est son collègue qui se fait appeler Vitamine. Visage cagoulé, ses yeux ne quittent pas une tablette tactile. Sur l'écran, un radar, une carte où l'on aperçoit les drones.
Je regarde dans le programme la distance de notre position par rapport au drone, sa direction, son altitude, sa vitesse. Je crie tout ça aux gars et eux, ils se positionnent pour détruire l'engin. Par exemple, je place la cible dans un sens horaire. Si un drone est à 11h, je crie 11h, telle distance, telle hauteur. Et les gars se positionnent pour tirer.
Vas-y.
Sur ces enregistrements réalisés par les artilleurs, on aperçoit l'unité en action, les balles fendent la nuit par une lumière orange vers le drone en mouvement. À chaque fois, la pression est maximale. Un drone qui passe le littoral, c'est un risque qu'il s'écrase sur un immeuble et qu'il tue des dizaines d'Ukrainiens.
Et quand vous n'y arrivez pas, comment vous vous sentez ?
On
n'est pas la seule unité à être dans le coin. Beaucoup d'unités comme la nôtre sont disposées autour de la ville. Donc on espère que si on n'arrive pas à abattre un drone, d'autres collègues le feront pour nous. Bien sûr que si on n'y arrive pas du tout, ça nous inquiète. On est forcément préoccupé pour les gens qu'on est censé protéger.
Cette nuit-là, le brouillard est particulièrement épais. Mais aucun drone russe n'arrive de Crimée, les artilleurs n'auront pas à tirer. Le lendemain de notre tournage, en revanche, une cinquantaine de drones ont attaqué le centre-ville d'Odessa, broyant un immeuble, bilan, 3 morts et une quarantaine de blessés.
Reportage à Odessa, signé Théo Renaudon de RFI pour France Inter et pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup. La suite, c'est ce que vous avez trouvé dans l'actualité internationale restée sous les radars, Guillaume Audin.
Un officier de l'armée grecque prit la main dans le sac à refourguer ses secrets aux Chinois. Attention, Pékin espionne.
Et alors, comme chaque mercredi, Ilana Mor-Youssef, à qui l'actualité inspire des lectures, voilà, dans le bon sens.
Eh bien, on se demandera, quelle princesse êtes-vous, Destroy ou propre sur vous ?
Les deux.
Allez savoir, allez tout de suite les amis, restez avec nous. Le tour de la planète fait un petit détour cette fois par Israël et par le Japon avec un mélange détonnant qui donne quelque chose de très funky. Sababa 5, les Israéliens, et Yurika, la Japonaise. Le titre, c'est Kokoro et c'est le choix de Djoubaka. Baba 5 et Yurika, Kokoro, c'est le titre. Guillaume Audin est de retour de sa plongée sous les radars. Avec la Grèce et cette affaire à la une de tous les journaux, un officier de l'armée de l'air interpellé pour espionnage au profit de la Chine.
Oui, c'est un colonel qui défraye la chronique, son nom est sur toutes les lèvres. L'arrestation de Christos Fletas passionne tout autant qu'elle interroge en Grèce. Comment un officier supérieur qui porte l'uniforme a-t-il pu être retourné par les Chinois ? Les Grecs n'ont pas raté une miette de sa première audition devant un tribunal. Elle a duré 8 heures, au bout desquelles le militaire, dans un acte de contrition, a demandé à être puni de la façon la plus juste qui soit. Il a été recruté via LinkedIn, ce colonel Fletas, formé et rémunéré par Pékin pour transmettre des plans opérationnels de l'OTAN via des systèmes de cryptage sophistiqués, mais pas assez sophistiqués pour la CIA, qui s'est empressée d'avertir Athènes. L'affaire agit comme un électrochoc. La Grèce s'est laissée amadouer par le commerce. Elle est vulnérable et à l'instar de la France, dernièrement, on s'en souvient, ou du Royaume-Uni, elle est la cible d'une offensive chinoise qui vise le cœur sécuritaire du continent.
De par son envergure et sa proximité avec les télescopes, on peut affirmer que l'impact qu'aurait ce gigacomplexe industriel serait dévastateur, irréversible.
C'était en avril dernier, dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Reportage diffusé ici avec des astronomes inquiets de voir leur ciel menacé par un méga projet industriel. Et bien, 9 mois plus tard, ils ont gagné.
Et peut-être que le micro de Naïla Derouanet et les bonnes ondes d'Un Jour dans le Monde, votre émission, Fabienne, ont eu leur modeste part dans cette victoire. voir. Mais oui, la science et peut-être même la rêverie l'ont emporté sur le profit. L'équipe d'astronomes chiliens, français et italiens de l'Observatoire européen austral était engagée dans un bras de fer contre un géant de la chimie américain. Sa filiale chilienne prévoyait d'implanter sa méga-usine illuminée à quelques kilomètres seulement des télescopes et d'un futur bijou XXL actuellement en construction, de quoi menacer la pureté du meilleur ciel du monde si ce projet à 10 milliards d'euros avait vu le jour. Mais voilà, un prix Nobel s'en est mêlé, le gouvernement chilien a fini par reculer, et les étoiles par déboucher le champagne, toute heureuse d'être bientôt mirée, admirée par les astronomes du désert d'Atacama.
60 seconds. That's the window Tim Saunders had to set a world record.
Voilà, donc 60 secondes et pas une de plus. En Alaska, un batteur professionnel a tenté de battre le record du monde de la rapidité de batterie.
Voilà, et pour être plus précis encore, on peut même dire tentative de record du monde de coups de baguette percutés sur la peau d'une caisse claire en une minute top chrono. C'est Tim Saunders qui s'est frotté au défi. C'est extrêmement sérieux, même scientifique. Ça s'est passé dans les locaux de l'université d'Anchorage en Alaska avec des caméras haute vitesse qui filment des dizaines de milliers d'images par seconde et des micros dynamiques pour capter le moindre claquement. Record à battre, 1200 frappes à la seconde. Les batteurs qui nous écoutent savent à quel point c'est musclé comme performance. Verdict, 1415 pour Tim Saunders, 23,5 coups de baguette à la seconde. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, le Guinness Book a 12 semaines pour homologuer. Alors vous me direz, à quoi ça sert tout ça? Eh bien peut-être à se souvenir qu'en 2014, Damien Chazelle a réalisé un superbe film qui rend hommage aux batteurs de jazz. Ce film, c'est Whiplash, que je vous recommande de voir ou de revoir. Sans perdre de temps, ni une seconde.
Au revoir, et c'est vrai que c'était formidable. Merci beaucoup, à demain Guillaume. Le mercredi, Ilana Mor-Youssef lit et relit. Au fil de l'actualité, ça s'appelle Écrire le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ilana, on apprend aujourd'hui que Britney Spears aurait vendu son catalogue de chansons à la société Primacy Wave pour 200 millions de dollars. Il y a un mois environ, la princesse de la pop annonçait sur Instagram qu'elle ne remonterait plus jamais sur scène aux États-Unis, mais qu'elle envisageait en revanche une tournée au Royaume-Uni et en Australie. De son ascension à sa descente aux enfers, la presse mondiale a à peu près tout dit sur elle, alors quoi de neuf?
Eh bien c'est vrai qu'en regardant la page Instagram de Britney Spears, quand on la voit danser face caméra, seule, dans sa maison immense, on éprouve quelque chose qui ressemble à de la compassion, mais on a peut-être tort, car il y a bien quelque chose de neuf, et ce quelque chose, c'est le regard porté sur l'ex-enfant star de Disney, la chanteuse aux 200 millions de disques vendus. Il y a une dizaine de jours, Charlotte Casiraghi, fille aînée de Caroline de Monaco, était invitée de C'est à vous sur France 5, et pour son moment carte blanche, elle a rendu hommage à Britney Spears.
T'as représenté pas mal de choses, pour les femmes notamment. Nous avons dansé en t'écoutant, nous avons rêvé de te ressembler. Tu as été l'espace de quelques années une image qui rendait fou et tu en as sans doute beaucoup souffert. Il reste de ce moment quelques titres qu'on ne peut pas oublier. Oups, Toxic, Baby One More Time. Chaque chanson est un souvenir et une possibilité de mouvement. Le monde entier, non sans obscénité, a vu passer en toi cette cassure, sous le papier glacé, sous l'apparente perfection. Je voulais donc te laisser un petit message pour te dire que dès le départ, on était nombreux à voir que sous le glamour, la douleur était palpable et que nous sommes tous un peu fêlés.
Et puis, coïncidence, juste au moment où Charlotte Casiraghi rendait cet hommage, la même semaine, est sorti en poche dans la collection Folio, un livre très remarqué quand il a été publié en grand format en 2024. Ce livre, c'est « Pour Britney » de Louise Chenevière. Louise Chenevière a 32 ans, Charlotte Casiraghi 39, et je me suis dit que cette histoire de Britney Spears était sans doute quelque chose de marquant pour les jeunes femmes trentenaires. Louise Chenevière.
Quand j'étais petite, c'était vraiment une femme que je voulais être. Et moi, ce que je voyais enfant dans Britney, c'était une femme libre, belle, jeune, puissante, qui avait le monde à ses pieds et surtout qui faisait ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire chanter et danser. Et ce que moi aussi, je voulais faire. Donc, petite fille, j'étais fascinée par elle, mais très vite, tout le monde m'a dit « elle est vulgaire, c'est nul, c'est de la pop ». Et puis surtout, quand il y a eu ce tournant en 2007 où elle s'est rasée la tête, où elle est effectivement devenue un peu folle, mais ce qui est absolument normal, vu le traitement médiatique qui lui était infligé, tout le monde s'est mis à se moquer d'elle et moi j'ai fait comme tout le monde. Et après je me suis construite pendant des années en voulant devenir un écrivain, je genrais tout ça au masculin, enfin j'ai vraiment appris à mépriser et Britney Spears et ce qu'elle incarnait.
Alors dans les toutes premières pages de Pour Britney, Louise Chenevière rouvre des cartons entreposés depuis 20 ans dans un box. Elle tombe sur des albums photos. Elle se voit, petite fille, et elle se demande à quoi donc cet enfant rêvait-elle. C'est le début d'un récit, essai au souffle puissant. On y perçoit plus que de la conviction, de la colère, une force torrentielle. Je vous propose d'en écouter un extrait.
My body knows. Elle répond à ce présentateur qui lui demande comment elle fait pour tenir ce show depuis 3 ans à Vegas. My body knows. Et elle continue de sourire alors que dedans, c'est l'effondrement. Alors que la vérité, c'est être surveillée matin et soir, quand on s'habille et quand on se déshabille. C'est ne pas pouvoir décider ni quoi porter, ni quelle chanson chanter, ni comment danser, ni quoi manger. Et surtout pas de dessert, car il ne faudrait pas que ce corps ne pas avoir de téléphone à soi. Que la réalité, c'est ne plus pouvoir avoir d'enfant, car son père, qu'elle n'avait jamais aimé, son père avait le droit de décider de tout ce qui la concernait. Désormais, il avait les pleins pouvoirs sur elle. Et quand la Cour de justice californienne avait fini par, après 13 longues années, autoriser cette femme à faire ce qu'elle voulait, autoriser cette femme à retirer son stérilet, même si son père ne le voulait pas, quand elle allait tomber à nouveau enceinte, cette femme ferait une fausse couche. C'était peut-être à force d'avoir tout fait pour de faux, fait trop semblant de vivre et avoir trop mal souri, comme elle sourit, là, face à ce présentateur qui lui demande si elle est heureuse dans sa vie, qui n'est plus du tout sa vie pourtant, qui lui a été confisquée par le père, l'industrie et l'État de Californie. Main dans la main, elle répond oui et elle sourit, mais quelque chose en elle n'est plus là.
Et c'est l'autrice elle-même, donc Louise Chenevière, qui vient de lire cet extrait.
Oui, et c'est une chance, car vous avez peut-être entendu ce rythme heurté, ces virgules placées là où on ne les attend pas, ce flux désordonné, déséquilibré. Louise Chenevière le revendique.
Les règles de ponctuation, particulièrement, elles enferment quand même le langage dans une certaine manière de dire les choses. Et moi, je pense que là, pour retranscrire et la colère et l'énergie, j'avais besoin de montrer ce souffle dans lequel j'étais. J'avais besoin de montrer aussi ce halètement, ce fait que je l'ai écrit très vite. Et donc, cette voix, en fait, je l'entends dans ma tête.
Et Ilana, pour Britney, pose la question du corps des jeunes filles.
Oui, et pas seulement le corps de la chanteuse, le corps le plus rentable de l'histoire du monde, écrit Louise Chenevière, mais aussi le corps d'une autre écrivaine, d'une beauté resplendissante, Nelly Arcand, contrainte de se suicider, de se prostituer, puis suicidée à 36 ans. Les corps des jeunes filles, toujours obligées de faire attention, car être une jeune fille signifie que tout ce que l'on fait signifie toujours quelque chose qui nous dépasse, écrit Louise Chenevière. Le livre s'appelle « Pour Britney », mais il est en réalité pour toutes les jeunes filles qui ont voulu ou voudront chanter, danser, être libres dans leur corps. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Louise Chenevière la semaine dernière, elle s'apprêtait à partir pour Londres, où elle devait donner 2 concerts, un peu comme Britney, et elle n'a pas renoncé à ses rêves.
Pour Britney, donc, de Louise Chenevière, vient de paraître en collection Poche. Ilana, merci beaucoup. N'allez pas trop loin, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de vous dans le journal qui vient. Donc, Ilana, one more time. Allez, à mercredi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Christelle Robière. Et puis le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Ce soir, c'est le jour des poubelles.
Mais oui, la gestion des déchets, l'un des thèmes de campagne des municipales. Leïla, depuis l'année dernière, la collecte des déchets était ralentie chez moi. C'est maintenant 1 semaine sur 2. Pour beaucoup d'habitants, c'est assez difficile de s'y reconnaître dans les différents types de poubelles. Donc, dans ma commune, eh bien, elle est de plus en plus sale. Il y a des poubelles tout le temps dans la rue. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge.
01 45 24 7000. Même chemin pour vos pouces par WhatsApp.